Avant de donner la parole à, pour rebondir sur ce qui a été posé déjà par Muriel Mahé, avant de donner la parole à Elisabeth Milon, je voulais donc bien rappeler le cadre dont on parle, c'est-à-dire de cet enseignement initial, que moi je vois un petit peu comme le soubassement de ces fameuses écoles d'art dépendant du ministère de la Culture, dont on connaît dramatique, musique, danse, beaux-arts, art déco, etc. Et justement, nous avons beaucoup parlé de la musique, de la danse, du théâtre, et aujourd'hui, ça me paraît très intéressant d'entendre le point de vue donc des arts plastiques, qui pourraient d'ailleurs entrer dans les conservatoires aussi, qui auraient peut-être leur place. Et donc, voilà, je vous laisse vous présenter et nous parler justement de votre point de vue.
Bien, merci et merci Antoine de m'avoir invité à participer à ce moment d'échange qui est important dans ce questionnement qu'on a tous en différents endroits depuis différents temps, on va dire, sur la notion d'enseignement artistique. Bien sûr, les écoles d'art plastique et visuel font partie de ce que l'on peut qualifier d'enseignement artistique, d'enseignement spécialisé, si vous voulez, d'enseignement artistique. Pour autant, dans la réglementation, dans les textes, les arts plastiques n'appartiennent pas aux établissements d'enseignement artistique. Voilà. Donc on est, comment dire, en creux et on a subi, on va dire, ce défaut de situation, cette non-appartenance, cette non-tutelle, ces non-textes cadres, voilà, comme le sont les schémas nationaux, départementaux, au moment de la crise, puisque s'il n'était pas forcément facile de se débrouiller des différents décrets dans les conservatoires, il était encore moins dans les écoles d'art plastique, puisque la plupart de ces textes n'étaient pas destinés, ne s'adressaient pas directement aux écoles d'art plastique. Bien. Pour autant, donc, même avant la crise, qui a mis en avant, on pourrait dire, de manière peut-être plus immédiate, plus administrative aussi, plus politique, les écoles d'art plastique ont souhaité se structurer, trouver un espace d'échange, puisque les écoles d'art plastique sont dans des situations émaillant tout le territoire français, tout à fait différentes les unes des autres. Et il peut y avoir des petites écoles et des écoles plus importantes, des écoles qui dépendent de conservatoires ou qui sont proches de conservatoires ou qui sont totalement indépendantes de conservatoires. Elles ne sont, ces écoles, structurées donc par aucun texte qui ne vient structurer donc à la fois les enseignements, ce qu'il faut enseigner, les disciplines, comment enseigner et même à qui elles s'adressent. Donc ces écoles de pratiques amateurs en arts plastiques et visuels se sont structurées sous la forme d'une association en 2015. Donc cette association que je représente aujourd'hui devant vous, c'est l'ANEAT, l'Association nationale des écoles d'art territoriales de pratiques amateurs, qui a jugé important pour s'identifier elle-même, s'identifier auprès d'autres interlocuteurs qui sont vous, les conservatoires, le ministère, mais aussi les collectivités territoriales et les élus, donc qui se sont structurés à travers cette association. Et cette association a pour membres des collectivités territoriales. Voilà. Donc ce ne sont pas des personnes qui adhèrent, mais bien des collectivités, des villes ou des établissements publics. Et ça, c'est une dimension importante à laquelle on a tenu dès le départ pour faire prendre conscience aussi quel était le portage, on pourrait dire, de ces enseignements et quelle était la responsabilité des collectivités territoriales et la nécessité aussi de penser un peu au-delà du local selon des problématiques plus ouvertes. Donc aujourd'hui, je fais partie des trois coprésidents de l'ANEAT et donc l'un des premiers outils dont s'est dotée cette association qui aujourd'hui représente 34 écoles en France. C'est peu par rapport au nombre d'écoles qu'on n'a toujours pas fini d'ailleurs de véritablement recenser, puisqu'on a créé un observatoire des écoles qu'on a mis en place avec le ministère de la Culture. Donc on travaille aussi avec le ministère de la Culture qui subventionne notre association et qui a permis aussi l'écriture de cette charte. Oui, on n'a pas, je pense, recensé toutes les écoles encore sur le territoire français. Enfin, les écoles qui relèvent des collectivités, on devrait approcher quand même de la réalité. Et puis au-delà, mais ces écoles n'adhèrent pas à notre association, tout ce qui relève des associations, et là aussi, tout ça est très vaste et divers. On s'est doté d'une charte pour, on va dire, pour prendre place comme outil de structuration et comme outil d'échange. Et vous pouvez bien sûr retrouver tout ceci, et comme l'enquête qu'on a menée sur la crise épidémique, comme notre observatoire des écoles, sur notre site aneat.fr. Et donc vous pouvez trouver aussi cette charte. Mais j'aimerais vous citer, parce que c'est peut-être là l'objet quand même de notre rencontre, c'est-à-dire comment on considère ce que sont ces enseignements. Et quels sont nos repères, nos référents, on pourrait dire notre philosophie et nos missions. Et c'est véritablement dans cet esprit-là que cette charte a été construite. Peut-être que le plus simple, c'est que je vous lise quelques mots. L'enseignement des arts plastiques et visuels, celui destiné au public amateur comme celui en vigueur dans les écoles supérieures d'art, repose sur les notions d'expérimentation, de projet, d'exercice du sens critique, de pluridisciplinarité et de transversalité. Il est soutenu par des rencontres avec les artistes et la découverte des œuvres historiques et contemporaines. On insiste beaucoup sur ce rapport aux pratiques contemporaines. Alors là, nous ne sommes pas conservatoires au sens littéral du terme, puisqu'on ne conserve pas de répertoire. Si nous avons des cours d'histoire de l'art, l'histoire de l'art n'est pas, comme vous le considérez, vous, un répertoire de théâtre ou un répertoire de musique. C'est totalement différent. Et, on va espérer ça en tout cas, on ne répète pas, et c'est peut-être moins simple que cela, en tout cas, on ne réinterprète pas, voilà, on n'interprète pas des modèles. Donc on pose les élèves dès leur plus jeune âge, et jusqu'aux élèves adultes. Certaines écoles peuvent être dotées d'une classe préparatoire aux écoles supérieures d'art, mais on met nos élèves dans cette position de créateur, donc de recherche, d'expérimentation personnelle, intime et collective, bien sûr, comme vous, mais on n'a pas donc de cursus, de notation, pour évaluer ce cheminement. Et ce cheminement, pour nous, et c'est ainsi qu'on le nomme, et vous aussi, vous le nommez de cette manière-là, on le nomme à travers des parcours individuels, voilà, qui sont des parcours d'évolution, d'émancipation, d'épanouissement. Et ce qui nous fait échapper, et cela est une question, mais les écoles d'art se sont construites là-dessus, échapper au protocole que vous pouvez connaître, vous, dans vos établissements d'évaluation. Et bien sûr qu'il y a évaluation, mais cette évaluation, elle se fait plutôt dans une évaluation collective, voire une auto-évaluation, c'est-à-dire dans un échange. Et on aborde aussi ce travail que je vous nomme plus méthodologiquement qu'autrement, sous la nécessité d'une saisie par le langage. Voilà. Et ça, dès le plus jeune âge, c'est tout à fait possible, voilà, de poser des mots, de poser un autre acte aussi à côté. Voilà, pour vous présenter un petit peu, peut-être rapidement, mais voilà, ce qui pourrait être, dans les enseignements spécialisés, une autre spécificité.